Vous écoutez RTL.
14h03, bonjour nos amis les curieux.
Bonjour Christelle, tout va bien?
Ça va bien et vous?
Nous aussi, bonjour à tous. Vous nous connaissez Christelle, on aime varier les plaisirs, les découvertes. Ce sera encore le cas aujourd'hui avec Anaïs évidemment.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors deux grands thèmes aujourd'hui comme chaque jour et on va les explorer jusqu'à 15h tout à l'heure. Les emojis et si ils avaient un lien avec l'espionnage, vous le saurez vers 14h30.
Allez tout de suite, quels sont les testaments les plus dingues, les plus incroyables de l'histoire?
RTL.
Je vais donc procéder à la lecture du testament de Doug. Je vais débuter par vous, Madge.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Mais je ne suis qu'une humble servante.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est pour cette raison que Doug ne vous lègue rien.
Félicitations, Madge. Vous ne méritiez pas moins.
Bonjour, Emmanuel Pierra.
Bonjour Thomas Hugues.
Bienvenue, vous êtes avocat, vous avez enquêté sur l'histoire des plus incroyables testaments et successions. Forcément, on va dire deux mots de Johnny Hallyday et ensuite s'en échapper pour raconter plein d'autres histoires. Mais cette bagarre, elle n'a pas dû vous surprendre. Est-ce que c'est forcément une question d'argent, les querelles de testaments et de successions? C'est plus compliqué que ça?
C'est en partie une question d'argent. C'est une question d'argent d'ailleurs, ou une question de querelle qui nous concerne tous. Hein. Oui. 20-25% environ des successions en France se terminent en contentieux devant un tribunal. En tout cas dans un litige où on ne se parle plus entre frères et sœurs. Et on rompt définitivement. Donc c'est un pourcentage important et qui n'est pas motivé uniquement par l'argent. C'est l'amertume, la jalousie, le regard de nos parents depuis outre-tombe, en quelque sorte la façon dont ils nous ont jugés, la façon dont la réussite sociale de nos frères et nos sœurs nous humilie ou au contraire nous permet de nous glorifier. C'est tout un tas de choses qui relèvent sans doute d'une autre profession libérale que la mienne, qui viennent en plus
un peu de psychologie,
de l'argent et des questions juridiques. Voilà, c'est l'être humain dans ce qu'il peut avoir de moins sympathique parfois, comme par exemple dans une assemblée générale de copropriété où on se met à discuter
moi,
des choses les plus mesquines.
Voilà.
Mais ça touche à des vrais problèmes, l'image qu'on a de soi, le lien, la transmission, la reconnaissance par ses parents, beaucoup de choses quand même très importantes et très intimes.
Alors parmi les histoires que vous racontez dans ce livre, Dernière volonté, publiée aux éditions de La Martinière, il y a celle de Maurice et Jean-Michel Jarre. Vous allez nous rappeler d'abord qui était Maurice Jarre.
Maurice Jarre est un immense compositeur de musique de film. C'est le très grand compositeur français qui s'exile aux États-Unis très vite parce qu'il compose Docteur Jivago. Il composera également la musique de film très célèbre, même très contemporain, de Ghost ou du Cercle des Poètes Disparus. C'est un homme qui a fait la musique d'une centaine de films, donc un Français qui a conquis Hollywood, comme on dit pour d'autres.
Récompensé de plusieurs Oscars.
Récompensé de 3 Oscars, de 4 Golden Globes. Donc c'est la star de la musique de cinéma de Hollywood pendant quasiment 50 à 60 ans. Il a vécu 40 ans aux États-Unis, plus de 40 ans aux États-Unis. Il y a vécu un certain nombre de mariages et d'aventures.
Mais quand Jean-Michel, donc né en son fils, donc qu'on connaît maintenant, né en 1948, est-ce que Maurice Jarre est pour lui un père présent, attentif, attentionné?
Alors Maurice Jarre est un père compliqué. Un père qui aura des enfants de 3 lits successifs et qui aura 4 épouses. Dès la naissance de Jean-Michel Jarre, je pense qu'il a été assez peu attentif et assez peu présent. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au bout de l'âge de 5 ans, quand Jean-Michel a 5 ans, son père quitte sa mère. C'est le divorce, c'est la séparation et c'est surtout l'exil aux États-Unis. Et Jean-Michel Jarre le dira très bien dans la presse à de nombreuses reprises. Il dira plusieurs fois, on peut avoir subi le divorce de ses parents quand on avait 5 ans. De là à ce que son père ne vous parle pas pendant 40 ans, c'est une autre histoire.
Il avait un peu des nouvelles par les magazines, Jean-Michel Jarre, c'est ça?
Jean-Michel Jarre a toujours dit qu'il apprenait ce que faisait son père, ce que son père pensait de la famille et ce que pensait de ses amours, uniquement en lisant la presse People, américaine ou française, qui effectivement, dans laquelle Maurice Jarre donnait de grandes interviews à chaque récompense, ou à chaque fois qu'il avait un nouveau succès grâce à un film d'Hollywood.
Maurice Jarre, qui s'est donc marié 3 fois, c'est ça? 4 compagnes.
J'aime bien Dany Saval, qui ensuite a épousé Michel Drucker, donc elle fait partie de notre patrimoine commun là aussi.
Ils ont un enfant ensemble, Stéphanie Jarre.
Oui, ouais. Stéphanie Jarre.
Et après chaque mariage, il a un peu le même discours, Maurice Jarre, lequel? Il dit « je suis ruiné », c'est ça?
Il dit « je suis ruiné », il dit toujours « je n'ai récupéré ni ma maison, j'ai dû lui laisser, ni ma voiture, j'ai dû la vendre, je n'ai plus que 1 à 3 valises ». Selon les mariages et les divorces, il avait de 1 à 3 valises, et donc à peine après de quoi aller au motel, pour le gagnant d'un nombre de trophées incroyables et de royalties conséquents à Hollywood.
Alors il est mort en 2009, il laisse 3 enfants, une dernière épouse, qu'a dit son testament?
Son testament est un testament en pur droit américain. C'est là que c'est intéressant. Maurice Jarre est français, exilé aux États-Unis. Il est résident fiscal californien, ce qui fait qu'il a le droit d'opter pour la loi américaine et californienne. Et que dit-elle, cette loi ? Elle dit que vous avez le droit de tout donner à une fondation. Par exemple, c'est ce que Bill Gates a annoncé vouloir faire. Vous pouvez donner tout, léguer tout à un chien, à un animal de compagnie, si bon vous chante. Vous pouvez donner ça à la femme de ménage, à qui que ce soit. Et vous pouvez surtout déshériter vos enfants.
C'est-à-dire en droit français.
Ce qui n'est pas le cas en droit français, comme on commence à le savoir depuis janvier dernier, je crois.
Comment ils réagissent, les enfants de Maurice Jarre et les petits-enfants ?
Ils ne réagissent pas bien, c'est logique. Ce n'est pas uniquement une question d'argent, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup Jean-Michel Jarre. Je pense que Jean-Michel, qui est musicien, il voit quelque chose de quand même très vexatoire et très particulier. Vous êtes un musicien de talent, aussi talentueux que son père, et vous vous retrouvez rayé d'un trait de plume de tout. Vous y voyez d'ailleurs des parallèles,
hein, David
et Johnny, évidemment, ou Laura, comédienne
bien
comme
sûr,
Johnny l'a été. Évidemment, on est dans des choses qui dépassent les problèmes d'argent. Donc Jean-Michel réagit très mal, il réagit surtout très mal parce que, à la gueule, qu'il ait tout laissé éventuellement, ou qu'il ait laissé beaucoup pour venir aux besoins d'une dernière épouse, mais il y en a eu quatre, il a fait le coup, il a passé son temps, pardon, à ne jamais s'occuper de ses enfants, à considérer qu'il ne leur devait rien, et que surtout c'était un père qui n'avait pas à leur donner de nouvelles ou quoi que ce soit. Donc c'est, on va dire, un règlement de compte plus général qui s'est joué au tribunal. Donc ses enfants sont allés au tribunal et ont saisi la justice française, un peu comme le font en ce moment d'autres enfants.
Ouais, et avec cette question, qui nous rappelle là aussi quelque chose, droit français ou droit américain, lequel va s'appliquer, réponse juste après la pause sur RTL.
Allô ?
Bonjour monsieur, c'est l'école d'accordéon ?
Oui.
Monsieur Ledoux à l'appareil.
RTL.
Rien ne m'aurait fait plus plaisir en guise de dernière volonté.
Oui.
D'entendre un petit air d'accordéon avant que je parte.
La curiosité est un vilain défaut.
J'appelle les artistes au téléphone tous les matins avant de partir faire mes courses sur le marché.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
C'était Jean-Yves Lafesse, évidemment, les testaments de Monsieur Ledoux, on ne s'en lasse pas. Les testaments les plus incroyables de l'histoire au menu de notre curiosité sur RTL et du livre de notre invité, l'avocat Emmanuel Pierrat. On racontait la guerre entre la dernière épouse du compositeur Maurice Jarre et ses enfants, notamment le musicien Jean-Michel Jarre. Maurice Jarre est donc mort en 2009. Il était citoyen français, mais il vivait aux États-Unis. Bon, évidemment, ça nous rappelle quelque chose. Dans ce cas de Maurice Jarre, qui vivait aux États-Unis, quelle a donc été finalement la décision de la justice ?
Après 10 ans de procédure, la Cour de cassation française, en septembre 2017, a donné tort à Jean-Michel Jarre, à Stéphanie, sa sœur, et à Kevin, leur petit frère, et a considéré que le testament était valable en droit américain et qu'ils pouvaient donc être déshérités parce que leur père était résident fiscal américain. Il ne leur est resté rien, si ce n'est leur amertume, et tout est parti dans la poche de la veuve de la dernière épouse de Maurice Jarre.
Donc ça, là encore, bon, on s'était dit qu'on ne parlerait pas trop de Johnny, mais le parallèle est trop évident. C'est-à-dire que qu'est-ce qui définit la résidence fiscale ? Puisque c'est ça le nœud du problème.
Le fait d'y passer plus de la moitié de l'année, c'est-à-dire 6 mois et un jour. C'est ce qui permet de vous rattacher fiscalement à un pays et donc de décider du droit qui s'applique à votre testament, à votre succession. On compte tout, hein, c'est-à-dire on regarde véritablement avec les tampons sur les passeports à quel endroit vous avez séjourné, combien de temps vous êtes resté. Donc pour Johnny Hallyday, pour l'instant, on se retrouve avec une situation où il a résidé fiscalement en Californie, à charge désormais pour Laura et David de démontrer éventuellement qu'il a passé plus de temps à l'étranger et surtout sur le territoire français. Combat difficile, hein. On a beau invoquer l'hospitalisation en France, des soins, les funérailles. De l'autre côté, Laetitia peut invoquer, mais ça n'est pas utile, la résidence scolaire des enfants, la scolarisation en Californie. Tout cela n'est pas véritablement l'objet du débat. Le seul objet du débat, c'est le fisc qui l'a tranché. C'est de savoir si ou non on devait payer ses impôts en Californie ou en France. Et il les payait ces dernières années en Californie comme Maurice Jarre. Bon. Donc a priori, elle a le droit pour elle, à charge pour les autres, d'essayer de faire tomber, de prouver le contraire. Un combat au minimum de 10 ans, hein, si on en croit ce qui s'est passé pour Maurice Jarre.
Et on imagine que les avocats du dossier Hallyday ont dû regarder de très près la jurisprudence qui concerne Jean-Michel Jarre et son père. Autre histoire de succession incroyable, Emmanuel Pierrat, racontée dans ce livre Dernière Volonté, publié aux éditions de La Martinière, celle du comte de Paris. Donc là, on est dans une histoire dynastique surnommée Henri VI par ses partisans, donc l'un des prétendants au trône de France, en quelque sorte, ou des successeurs. Est-ce qu'il était riche, déjà ? Commençons par là.
Alors, c'est un des trois prétendants, ça, pour être très précis. C'est la branche des Capétiens devenus les Orléans. Mmh. Il y a, pour mémoire, il y a la branche des Bourbons et puis il y a une branche napoléonienne qui s'est greffée dessus parce que plus on est fou, plus on rit. Hein, à un moment.
Donc, je crois qu'il hérite en 1940.
Il hérite en 1940.
Si j'ai bien lu votre livre. Et donc, il hérite de combien?
Il hérite d'une fortune. Alors, en ancien franc, ça ne va pas nous dire grand-chose, même si on compte parfois encore en francs, mais c'était 400 millions de francs, ce qui fait peu ou prou aujourd'hui l'équivalent de 149 millions d'euros, à
mais
peu de choses près.
Était plus riche
si
que
on
Johnny
fait une évaluation. Hein.
Il était plus riche que Johnny.
Avec Léna Luto hier, on l'a vu.
Johnny Hallyday, c'était le roi de la musique. Là, on parle d'une dynastie française. On peut être républicain et penser néanmoins qu'ils ont un petit peu de siècle d'avance.
Vrai,
le comte de Paris qui meurt en 1999. Que trouvent ses enfants dans l'appartement de leur père? Réponse avec un extrait de ce reportage RTL signé Franck Moulin, juillet 99.
6 mouchoirs, une paire de pantoufles. Ce sont tous les objets propriétés du comte retrouvés par les magistrats à son dernier domicile. Olivier Baratelli, l'avocat de 4 des 9 héritiers, n'en revient pas. Car il y a 50 ans, la fortune de la famille atteignait 4 milliards. Depuis, le comte a beaucoup vendu.
Un château à Palerme absolument extraordinaire. Le portrait du duc d'Aumale par Ingres, qui à lui seul valait 15 millions de francs. Ce dont on est sûr, c'est qu'entre 89 et 99, c'est-à-dire à peu près en 10 ans, le comte de Paris a vendu pour plus de 100 millions de francs de biens.
Emmanuel Pierrat, est-ce qu'on sait comment on est passé de 150 ou 149 millions d'euros à 6 mouchoirs brodés quand même?
Il y a plusieurs éléments, 6 mouchoirs brodés, oui. Peut-être qu'il avait déjà servi aussi, hein, néanmoins. En tout cas, on est passé assez vite d'abord d'un train de vie simple, plutôt monastique, à un train de vie fastueux, à quelqu'un qui pensait qu'il avait peu de chances de retrouver la couronne de France. Il savait qu'on était rentré dans la 4e puis la 5e République. Il a décidé que par conséquent, c'était le moment de jouir un peu de la vie. Mmh. Et donc, il a beaucoup, beaucoup flambé, pour parler simplement. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, c'est qu'il a fait des placements, il a constitué une fondation, et puis il a fait des dons à cette fondation. Et cette fondation, elle est miraculeusement dirigée aujourd'hui. Elle a été dirigée, cette fondation, par celle qui était sa gouvernante. Je n'ai pas besoin d'aller passer véritablement dans le secret des alcôves pour vous faire comprendre ce que ça signifie. Et donc, il a eu 11 enfants de sa femme légitime d'un côté, qu'il a considéré comme étant toujours, on va dire, inintéressant.
Des moins que rien.
Il leur a dit « Je ne vous laisserai que la haine et les larmes pour pleurer ». Et donc, il considérait que sa véritable vie était ailleurs. Il s'avère qu'en l'occurrence, sa gouvernante, nommée directrice d'une fondation, c'est cette fondation qui a récupéré ce qu'il y avait encore de la fortune de France. Voilà.
Et donc, ça a été éparpillé. Tiens, lui aussi fait partie du patrimoine français.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton.
Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir.
Le Petit Prince, l'un des livres les plus vendus dans le monde, un pactole pour les ayants droit d'Antoine de Saint-Exupéry, mais eux aussi se font la guerre, récit à venir dans la curiosité.
Qu'allez-vous faire, Antoine?
Partir.
Pour aller où?
Rejoindre Mermoz et les autres. Ils m'attendent.
RTL.
Terrain de Bastia, Borgo, en Corse, le 31 juillet 1944. 8h30, Antoine de Saint-Exupéry s'apprête à monter à bord de son bimoteur Lightning, version reconnaissance, pour effectuer une mission entre Annecy et Grenoble.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
L'appareil ne rentrera pas, il faudra attendre septembre 98 et la découverte d'une gourmette en argent au large de Marseille pour que les recherches reprennent.
La curiosité est un vilain défaut.
Et vous l'avez compris, on parle maintenant d'Antoine de Saint-Exupéry, le pionnier de l'aéropostale, l'auteur, entre autres, du Petit Prince. Emmanuel Pierrat, de son vivant déjà, était-il un homme riche, Saint-Ex?
Non, Saint-Ex, pardon, n'a jamais été un homme riche. Il est mort avec un écrivain à succès, mais il était aviateur, il était militaire, il était engagé. Il ne jouissait pas de son argent et la fortune s'est produite bien après. Mmh. C'est le mythe de Vol de Nuit, du Petit Prince, qui a fait que ce livre a été traduit ensuite dans 200 langues. C'est le livre le plus traduit au monde avec la Bible et le Capital. Hein. On trouve le Petit Prince en toba, qui est une langue perchée au milieu de la cordillère des Andes, parlée par un peuple amérindien. Ils n'ont eu que le Nouveau Testament et le Petit Prince traduit dans leur langue. C'est montré à quel point, voilà, c'est, pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots, c'est presque dessine-moi un lingot par moment.
Alors mais justement, à propos de lingot, on se demande forcément qui profite de ses revenus, des droits d'auteur, parce qu'Antoine de Saint-Exupéry, il est mort brutalement dans l'accident de son avion le 31 juillet 1944. Est-ce qu'il avait eu le temps de faire un testament? Est-ce qu'il a des enfants?
Il a eu le réflexe de faire un testament parce qu'il savait qu'il partait dans des missions dangereuses et qu'il allait combattre et que la mort éventuellement l'attendait à chaque décollage. Il a épousé, enfin il a eu une grande histoire d'amour qu'on connaît avec Consuelo, une Argentine. C'est la rose hein, dans Le Petit Prince lorsqu'il a les planètes et cette promenade miraculeuse. Et donc Consuelo, qui a été son grand amour, il a décidé qu'il lui léguait de son vivant déjà la moitié de sa fortune. Il ne savait pas ce qu'il deviendrait, il ne savait pas ce que deviendrait leur histoire d'amour. Mais dès les années 30, il a rédigé un testament, 50% pour Consuelo et 50% pour ceux qu'il aurait éventuellement comme famille qui resterait. Et à l'époque, Saint-Exupéry a des frères et des sœurs.
Mais pas d'enfants.
Pas d'enfants. Mmh. Un frère et une sœur mourront avant lui. Mais donc, le jour de son décès, de sa disparition, il laissera derrière lui deux frères, enfin un frère et une sœur qui deviendront finalement les co-héritiers avec Consuelo. 50% pour elle, 50% pour eux, et pour eux surtout la gestion des droits sur l'œuvre, c'est-à-dire la gestion, le droit moral, le droit de décider de ce qu'on fera de son œuvre, des nouvelles exploitations, et puis la transformation au cinéma, les adaptations diverses et variées. C'est eux qui sont aujourd'hui les neveux de la dernière survivante de ses sœurs qui gère cet immense pactole, qui en fait des héritiers professionnels.
Oui, ça, effectivement, ça doit aller pour eux. Mais Manuel Pierra, comme vous le racontez dans votre livre « Dernière volonté », il y a un grain de sable dans cette histoire. Un certain, alors je vais le dire à la française, José Martinez Fructuoso, qui est-il ?
Fructuoso, c'est le secrétaire de Consuelo. Consuelo, donc, survit à Saint-Exupéry. Elle se retrouve peu à peu, au fur et à mesure des années, voir la fortune arriver et s'accumuler. Très sincèrement, c'est une véritable histoire d'amour désintéressée au départ. Oui. Mais elle mourra en 1979. Chaque année de son veuvage, elle se retrouve finalement titulaire d'une rente de plus en plus spectaculaire, dont les droits sont gérés aujourd'hui en France par Gallimard et par plus de 200 éditeurs dans le monde. Donc elle terminera sans enfant, toujours amoureuse de celui qui a été le magnifique aviateur qui l'a tant envoûtée, et elle lèguera par défaut à son secrétaire vraiment, celui qui faisait ses courriers, etc., ouais, le fameux Fructuoso, en 1979, tous les droits qu'elle détient, 50% sur l'œuvre de Saint-Exupéry et toutes les exploitations dans le monde entier.
Et donc ce Fructuoso, il vient embêter les neveux de la sœur, de, si j'ai bien compris, de Saint-Ex.
Et ce Fructuoso pense que peut-être il n'en a pas assez et décide d'un seul coup d'abord de refaire les comptes, de remettre en cause des accords qui avaient été passés, parce qu'à chaque fois qu'on décide une nouvelle exploitation quand même, tout le monde est un peu concerné hein, autour de la table, c'est une sorte de conseil d'administration. Et surtout Fructuoso se met à publier des lettres inédites échangées entre Saint-Exupéry et Consuelo, le grand amour de Saint-Ex dans les années 30, des lettres qu'on traduit qui deviennent des succès de librairie. C'est fait sans autorisation évidemment de l'autre partie de la famille, des neveux. Donc tout ça, étant donné les passions et l'argent, se termine bien évidemment au tribunal.
Et ils se sont même battus pour une gourmette. On va vous raconter cette histoire dans un court instant. Et puis juste après, comme promis, les emojis, ces petits dessins qui animent nos textos. Mais qui les invente ? On s'est posé cette question toute simple dans la curiosité. À tout de suite.
Maître Larieux, j'ai donc été chargé du testament de votre mère.
Thomas Hugues.
Je vous propose donc un nouveau rendez-vous le jeudi 15h.
Anaïs Bouton.
Non, je peux pas.
La curiosité.
Moi non plus, je peux pas.
Est un vilain défaut.
Bon, écoutez, il va bien falloir trouver une solution parce qu'il y a quand même un tas de papiers à signer. Il s'agit d'une somme de 3 millions de francs, n'est-ce pas ? Il y a des tas de procédures.
Pardon, une somme de 3 millions.
Sur RTL.
Le rendez-vous, c'est
jeudi, 15h.
Je peux, je crois.
Je peux. On est toujours avec l'avocat Emmanuel Pierra qui nous dévoile les secrets des testaments les plus incroyables. Un peu comme dans le film Les Trois Frères, hein, ça doit se passer comme ça de temps en temps. Personne n'en veut, puis finalement il y a de l'argent et tout le monde se déchire pour le récupérer. Vous avez réuni 21 histoires comme ça dans ce livre Dernière Volonté, publié aux éditions de La Martinière. On en a choisi finalement trois seulement. Et on termine celle d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc vous nous expliquiez, il a un frère et une sœur, c'est ça, encore vivant quand il meurt. Les neveux de ses frères et sœurs, dont les neveux de Saint-Ex vont devenir les ayants droit, ceux qui s'occupent de gérer sa fortune considérable grâce au succès de ses livres. Et puis il y a le secrétaire du grand amour de Saint-Ex qui lui aussi va s'en mêler. Et ces gens-là vont se battre pour une gourmette. Vous pouvez nous raconter comment ?
La gourmette, elle est mythique. Pourquoi ? Parce que c'est la seule trace, finalement, qu'on ait retrouvée de la disparition de Saint-Exupéry. Pendant très longtemps, c'est resté mystérieux. Hein, un avion qui disparaît quelque part, à partir d'Annecy, au-dessus des Alpes. Aucune idée de ce qui lui est arrivé. Aucune idée de l'endroit où il s'est écrasé. Est-ce qu'il est mort avant ? Est-ce qu'il a été abattu par un autre aviateur ? C'était le mystère le plus complet. Jusqu'à ce qu'en 1998, un pêcheur au large de Cassis remonte ses filets et trouve une gourmette sur laquelle est inscrit les noms de Saint-Exupéry. Un certain nombre nombre de signes qu'il ne pouvait être le seul, en quelque sorte, à connaître. Donc, une gourmette de 25 grammes, un tout petit objet, qui est la seule trace, finalement, de la disparition de cet ex. On trouvera ensuite, on fera des recherches importantes,
on voit l'avion,
ça coûtera 1 million d'euros, ces recherches au large de Cassis pour arriver à retrouver la carcasse. Et puis le même qui a commencé une enquête extraordinaire finira par retrouver, identifier l'aviateur allemand qui a abattu cet ex et qui se souvient de la bataille dans l'air, pardon, dans laquelle il pourchassait l'avion français. Donc une histoire absolument saisissante et tragique.
Et alors où intervient Emmanuel Pierrat, la bagarre des ayants droit?
La bagarre viendra parce que cette gourmette n'a pas de grande valeur en tant que telle. C'est un objet, pardon, un simple petit bijou, c'est un souvenir. Mais tout ce qui a touché Satex devient absolument mythique et peut avoir une valeur aux enchères absolument incroyable. Ouais. Et il y aura une grande suspicion de la part des Daguet, qui sont les neveux de Satex, les co-héritiers, qui diront que c'est un faux qui a été produit pour le marché et qui a été fait forcément ou par des adversaires ou par la partie adverse, c'est-à-dire par le secrétaire de Consuelo, notre co-héritier avec lequel nous sommes en guerre. Tout ça tournera à une crise absolument majeure, ça va durer des années, l'affaire de la gourmette. Finalement, les Daguet admettront qu'il s'agissait bien de véritablement des 25 grammes, etc., que c'était bien la gourmette, même si elle ne se trouve pas du tout à l'endroit où on pensait que Saint-Ex avait été disparu. Ça ravivera évidemment les querelles et d'héritage. Ils mettront 12 ans à s'en remettre et à se rasseoir vaguement autour de la table avant de recommencer un énième procès. Mais là, c'est une histoire, une autre, et qui continue encore.
Et voilà.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.